Bienvenue à vous tous qui nous écoutez, ici Jonathan Chaignon pour animer ce troisième épisode du Family and Business Podcast. Nous allons explorer un des leviers pour faire naître ou renforcer les dynamiques au sein du collectif des actionnaires. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sylvie Chamberlin. Sylvie, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous et toutes.
Sylvie, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Je suis executive coach et conseil de dirigeant depuis maintenant un peu plus de 20 ans, après une solide expérience dans le business. Ma spécialité, en fait, c'est l'accompagnement stratégique et humain des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs équipes, et aussi des actionnaires familiaux, qui est notamment au sein de Family & Co, chez qui j'interviens depuis près de 5 ans maintenant.
J'ajoute, puisque vous ne le citez pas, que vous êtes l'auteur du livre « L'entreprise existentielle, le vivant au cœur de la stratégie », sorti très récemment, que vous avez coécrit avec Pierre-Éric Sutter et préfacé par Emery Jacquia, le président de la communauté des entreprises à mission.
Oui, effectivement. En fait, ce livre, face aux enjeux environnementaux et sociétaux, a pour intention de questionner les dirigeants d'entreprise, mais aussi finalement chacun et chacune d'entre nous, sur l'importance de se réinventer. Aujourd'hui pour prendre soin du vivant. Quand je dis vivant, c'est à la fois la planète et les humains, enfin, et l'homme. Donc prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Et notamment se reposer la question du sens de l'action, du sens de l'entreprise, de sa mission. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'entreprise familiale, elle a cette chance, parce qu'elle est ancrée dans la durée, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, de pouvoir plus facilement prendre conscience de son rôle sociétal et d'agir en conséquence.
Sylvie, vous avez assisté le 14 décembre dernier au Family and Business Forum co-organisé par Family & Co, La Tribune et le FBN France. Que retenez-vous de cet événement ?
Alors, ce que je retiens de cet événement, c'est le thème même en fait, de ce forum, qui avait pour ambition de montrer en quoi et comment les entreprises familiales ont un rôle clé pour faire face à ces nouveaux enjeux de société et ces questions de sens, et notamment comment elles peuvent, encore plus que les entreprises capitalistiques classiques, j'allais dire, développer leurs responsabilités sociétales. Et je crois que c'était tout l'intérêt de ce forum.
Justement, sur ces notions de sens et de responsabilité que nous retrouvons d'ailleurs très fort dans votre livre, qu'observez-vous de particulier dans vos rencontres avec les actionnaires familiaux ?
Alors, avec les actionnaires familiaux, je suis toujours profondément touchée par les valeurs qu'elles portent souvent et par les valeurs portées par la plupart des familles que nous accompagnons. Alors, tout d'abord parce que souvent, ce sont des valeurs qui sont issues d'une histoire, témoins d'une aventure humaine, le plus souvent, et fruits de l'investissement de plusieurs générations, avec à la fois ses succès, mais aussi ses échecs, ses parcours de vie, donc une forme d'authenticité qui est très forte, qu'on retrouve dans les familles. Et donc aussi une dimension humaine qui se sent, et l'envie souvent qu'on aperçoit dans nos familles de faire perdurer ce lien collectif et cette humanité dans la suite de l'aventure actionnariale. C'est une vraie force des entreprises familiales qu'il est important de souligner. En effet, quand on a hérité finalement de son grand-père et qu'on a envie de transmettre à ses enfants, qui n'aurait pas envie d'agir avec du sens dans l'authenticité de ses valeurs et de toute cette histoire familiale depuis des générations.
Et justement, comment les entreprises familiales font-elles fructifier ces valeurs dans le temps ?
Ce que je perçois en fait par rapport à ces notions d'engagement et de sens vient souvent de la spécificité des entreprises familiales. En effet, dans le temps, elles ont la chance de pouvoir inscrire leur action dans la durée, sur un temps bien plus long que les autres entreprises qui sont plus dans des logiques capitalistiques. Ce qui facilite d'ailleurs certaines décisions à court terme, même si parfois elles sont moins rentables. J'ai vu par exemple certaines familles qui se donnaient un point d'honneur à garantir l'emploi, quelles que soient les circonstances économique de l'entreprise, à s'investir dans leur terroir, avec ce que ça peut représenter aussi comme investissement, avec un grand sens des responsabilités. Et c'est souvent beaucoup plus facile et même plus naturel, finalement, quand on veut honorer la mémoire de sa lignée. Et enfin, il y a un autre point sur les questions de sens et d'engagement sociétal. Je vois d'ailleurs plus récemment bouger les lignes, notamment sur l'impulsion des nouvelles générations. Les next-gen sont en effet beaucoup plus soucieux de l'environnement, de la planète. Et la génération des Trente Glorieuses se doit de les écouter si elles veulent continuer à les embarquer dans l'aventure. C'est souvent ce qu'on voit aussi dans les groupes qu'on accompagne, c'est que ces jeunes poussent en fait leurs parents, leurs grands-parents, à investir davantage sur ces sujets. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu des travaux que nous menons dans les collectifs, quand nous accompagnons les familles chez Family & Co, c'est souvent s'inspirer du passé pour construire l'avenir avec l'ensemble des générations. Alors parfois on réconcilie des envies diverses, Mais tout l'enjeu, c'est justement de construire cette vision partagée pour que, à la fois, les anciens se retrouvent, mais où surtout les jeunes se projettent dans le futur.
Et dans ce travail collectif, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ces collectifs? Quelles spécificités sont propres aux actionnaires familiaux? Et enfin, est-ce qu'il existe un risque plus important de conflit?
Alors, ce qu'on observe, et dans la méthode avec laquelle nous travaillons, c'est que la première des choses, c'est de partir de l'individu. C'est-à-dire que tout travail collectif doit commencer par une réflexion individuelle. Partir de chacun, de chacune, écouter ses envies, sa vision du présent, du futur, est aussi une étape indispensable. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet souvent d'identifier les zones de convergence, qui sont souvent très nombreuses. Et d'ailleurs, parfois, même ça étonne nos familles de se rendre compte que finalement, ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Mais aussi, ça nous permet de voir les points de divergence ou de désaccord qui existent parfois. Et du coup, nous les aidons à finalement construire sur ce qui les rassemble pour trouver des points d'appui, pour ensuite aborder les sujets qui peuvent prêter davantage à discussion. Et en fait, par rapport à la question des risques de désaccord, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément plus important dans les collectifs familiaux. Je dirais même que, sauf cas particulier de mésentente familiale profonde, et ça, malheureusement, ça peut arriver, et là, c'est plus difficile, effectivement, de retrouver une manière de fonctionner ensemble, finalement, on se rend compte que la priorité est souvent donnée à la préservation du collectif dans les familles, puisque c'est ce qui fait le tissu, en fait, et de l'entente familiale. Et avec le risque, parfois, on l'a vu dans certaines familles, de rester sur un statu quo, ou alors sur des non-dits, ou des insatisfactions, sans oser les partager. Parce que, justement, on ne veut pas blesser l'un ou l'autre, ou aller contre les idées des uns et des autres. Notre rôle, alors, en tant que dans notre accompagnement, c'est vraiment d'encourager l'expression individuelle, la confrontation éventuelle, bienveillante, certes, mais qui doit se faire, parce qu'il doit être sincère, parce que c'est ça qui va construire un collectif solide, un collectif sur la durée.
Travailler sur cette vision commune, ce sens donné aux actions du collectif, que ce soit des diversifications, des investissements, sont les clés principales pour un collectif soudé et engagé?
Oui, c'est vraiment très important. En fait, le travail sur la vision commune pour l'avenir est vraiment clé. Car avant de savoir quoi faire, encore faut-il savoir pourquoi on le fait. Et surtout, pourquoi on le fait ensemble. Et c'est tout l'enjeu de nos accompagnements, c'est d'aider nos familles à comprendre ce fameux « why », comme l'a décrit Sinek, pour ceux qui connaissent. C'est, en fait, ce « why », c'est ce rêve commun, cette ambition partagée qui a besoin d'être précisée. Et en fait, souvent, elle ne se décrète pas, elle se construit au fil du temps et elle doit se re-challenger régulièrement. Alors, c'est vrai que travailler sur ce « why », travailler sur ce « pourquoi », sur cette raison, sur le fait de ce qui nous rapproche et ce qui nous donne envie de travailler ensemble, c'est un vrai engagement en temps pour les actionnaires. Que de réussir, de construire cette vision partagée. Mais c'est vraiment un ciment réel pour les années à venir, une base aussi solide pour l'entreprise. Et on le voit à la fois pour les actionnaires, mais aussi pour toute l'entreprise qui souvent se retrouve avec une feuille de route très claire et un terreau fertile pour embarquer l'ensemble de la famille, mais aussi l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des salariés, l'ensemble du management, et assurer ainsi la pérennité de l'aventure familiale.
Merci Sylvie, un grand merci d'avoir participé, d'avoir accepté mon invitation. Au troisième épisode du Family and Business Podcast. Merci pour l'échange riche sur cette question du pourquoi.
Merci Jonathan et merci à tous.
À vous qui nous écoutez, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité. À bientôt.